Deuxième partie. Confluence. Chapitre 1. L'une était plus excitée que jamais. L'autre tournait en rond sous le stress. Romy avait déjà sa valise prête. Elle vérifiait sa boîte mail toutes les heures pour s'assurer qu'il n'y avait pas de nouvelles instructions. Tandis que Zoé se morfondait sur cette folie. Comment en était-elle arrivée à céder ? Pire, à embarquer sa fille avec elle. Elle en voulait terriblement à Simon. Elle saisissait maintenant pourquoi Villon et son équipe ne s'étaient pas déplacés ce jour-là au parc Monceau. C'était un coup de Simon. Lui avait compris qu'il n'avait pas les bons codes. Il savait en revanche qu'il pouvait parvenir à la faire basculer s'il était seul, avec sa méthode de gentil fourbe. Clairement, celui-là, sous ses airs de ne pas y toucher, n'était pas un allié. Zoé saurait s'en méfier. Les deux femmes furent surprises par le manque de préparation. Elles s'étaient attendues à partir en formation dans un centre militaire ou spatial, un stage de mise en condition, sans bien savoir de quoi. Et rien de cela ne se produisit. On leur envoya chez elles deux types pour signer des documents légaux. Mathéo Villon appela pour témoigner son enthousiasme à l'idée de les savoir à bord. Anissa se chargea de leur expédier des emails pour bien préciser qu'elles ne devaient communiquer à personne leurs échanges. Pour qu'elles puissent préparer leurs bagages en conséquence, elle leur adressa une liste des fournitures qui leur seraient allouées sur place pendant la durée de la mission. Suivirent des mails de précision d'ordre pratique. Passeport à scanner, visite médicale poussée à Calais, poids maximal des bagages à respecter, demande concernant le chien, puisque la délégation fournirait sa nourriture. Les deux semaines qui suivirent ressemblèrent à un échange rébarbatif avec l'administration française, pas du tout à la préparation qu'elles imaginaient d'un événement aussi intense. Les news concernant Sphère n'apportaient rien de neuf. De nouvelles images sortaient régulièrement, mais montraient toujours la même chose, et le monde s'impatientait. En la matière, Zoé et Romy ne recevaient pas plus d'exclusivité. Aucun élément supplémentaire sur Sphère, ni précision, ni photo, rien. Une rumeur se propageait sur les réseaux, rapidement amplifiée par les médias, concernant des tensions militaires grandissantes aux abords de la boule de lumière, entre différentes marines et quelques aéronefs dans l'espace aérien. On ne déplorait aucun affrontement direct, mais il semblait que ça n'était pas passé loin à plusieurs reprises. Puis vinrent les premières vidéos de la plateforme tractée par un immense navire industriel. C'était un monstre d'acier dressé sur quatre piliers qui jaillissaient de l'eau, apparemment bâti sur des flotteurs colossaux invisibles sous l'écume. Plusieurs bâtiments se dressaient sur le socle principal, haut de 4 ou 5 étages, au milieu de tourelles, grues et pistes d'hélicoptères. Cela ressemblait à une plateforme pétrolière, peut-être plus grosse. Et pour cause, expliqua-t-on par la suite, c'en était une qui venait d'être aménagée en urgence en station scientifique. Il y eut un débat sur le nom qu'elle devait porter, initialement prévu pour être Santa Maria, en hommage à la carac amiral de Christophe Colomb. Mais la connotation religieuse déplut fortement à de nombreuses communautés, et l'idée fut abandonnée. Elle fut finalement baptisée Lux 1, parce qu'elle rassemblerait les lumières du monde pour répondre à celles dans le ciel. Zoé s'inquiétait du manque d'informations et de suivi dont la commission faisait preuve à leur égard. Simon ne s'était plus manifesté depuis qu'il était venu les convaincre. Nous persuader, oui. Pour cette absence aussi, Zoé lui en voulait. Elles ignoraient qui étaient les autres membres d'Icon. En fait, elles ne savaient pas grand-chose de plus que la plupart des gens devant Internet et leur télévision. Un matin de la 3e semaine d'attente, Romy sauta dans la chambre de sa mère pour la réveiller. Oh, on a reçu un mail avec nos contrats de travail, même. Je vais être payée, t'entends? Ils vont me filer du fric pour ce que je vais faire. C'est... Ça s'appelle un job, chérie, fit Zoé en suquet. Tu vas voir, c'est utile. Romy ne releva pas l'ironie. Elle sautait de joie dans la pièce. Elle, qui s'était cherché une place en elle-même, puis dans ce monde, voyait ce dernier enfin s'intéresser à elle. Comprenant cela, Zoé se redressa dans son lit et, pour la première fois depuis la trahison de Simon, vit du positif à cette histoire. Puis le lendemain, un coup de téléphone leur annonça qu'elles étaient attendues à l'Élysée pour faire connaissance avec la présidente en personne, dans 2 jours. Là, Romy se décomposa. Elles mirent une journée à s'en remettre, tout autant à sélectionner leur tenue. Zoé se trouvait futile. de se sentir intimidé, d'accorder autant d'importance à son apparence, comme s'il s'agissait de masquer par son physique ses lacunes intellectuelles. Ça ne lui ressemblait pas. La rencontre s'effectua dans un salon privé du palais. Zoé n'en menait pas large. Elle avait les mains moites et les jambes en coton. Le cliché. Romy buvait du regard chaque détail, trop heureuse d'être invitée. Elle avait même voulu embarquer René au titre de membre à part entière de la famille et de la mission. Et Zoé avait dû faire preuve de fermeté pour qu'elle y renonce. C'était une présentation en petit comité. Matteo Villon, ses deux collaborateurs, Anissa et Maric bien sûr, ainsi que quelques personnes en costume que Zoé n'avait jamais vues auparavant. Ils étaient moins de 20. Pas de traces de Simon, bien sûr. Ce couard avait fait son job. Maintenant, il se planquait. La présidente entra la dernière dans le salon, charismatique, fascinante. Impossible de lui donner un âge, s'étonna Zoé. Elle fonça droit sur elle et Romy. Zoé en recula légèrement, impressionnée. Elles échangèrent des banalités, où bien entendu, Zoé se sentit un peu fade. Pas à sa place. Mais la présidente savait y faire. Compliment sur son premier livre, elle avoua n'avoir pas encore eu le temps de lire le second. Sur sa robe, et sur Romy qui était resplendissante. Elle ajouta même, « Et j'ai entendu dire que vous aviez un chien qui viendra avec vous. Vous auriez dû l'amener. J'ai dit que je voulais rencontrer tous les membres de notre délégation. » Romy ouvrit grand la bouche. « Même, je te l'avais dit, » fit-elle sans aucune retenue. Ce qui amusa la présidente. Puis une femme brune d'une cinquantaine d'années au moins, plus effacée, approcha. Zoé constata que c'était toujours ainsi. Il fallait systématiquement qu'on estime l'âge d'une femme lorsqu'on la découvrait pour la première fois, et elle s'en voulut d'avoir elle-même ce réflexe dégradant. Pourtant, elle continua à la scruter. La femme en question était d'une minceur excessive. Toutefois, son chemisier noir, orné de brillants, était assez ample pour donner le change. Le temps lui avait cruellement marqué le contour des lèvres de son empreinte. Un fin trait noir soulignait ses yeux bleus vifs. Et lorsqu'elle décocha un rictus aussi amical que possible, Zoé la trouva très jolie. Ses rides réagirent comme autant de mains chaudes et rassurantes qui vous prenaient le visage pour vous écouter avec attention et sagesse. « Voici Diane, » présenta la présidente. « Ma compagne. » Se tournant vers Romy, elle lui adressa un clin d'œil et confia. « Ce pays a encore des progrès à faire en matière de tolérance, mais il avance. » Manifestement, elle savait, concernant Romy, qui lui répondit d'un sourire entendu, mais gêné. Méfiante, Zoé y vit une explication de plus à leur sélection, elle plutôt que d'autres plus légitimes. Était-ce un outil de com' de l'exécutif que de pouvoir dire à un moment qu'ils avaient pensé à sélectionner dans leur délégation des membres de tous les horizons, y compris ayant transitionné? Ou bien elle soutient Romy parce qu'elle nous comprend, et c'est de la bienveillance. Ou bien elle s'en fout, et c'est moi qui suis juste parano. La présidente fut happée par d'autres convives et s'écarta, laissant Diane avec elle. Pas trop stressée? Si, d'être ici. Avoua Zoé. Plus que par la mission, je crois. Ah, ça, je vous comprends. Et encore, nous avons insisté pour qu'il n'y ait aucun ministre. Ces vampires auraient trouvé un moyen d'accaparer votre présence pour en tirer bénéfice. Cette franchise faisait du bien, songea Zoé. Elle rendait le couple présidentiel plus humain.
Sauf que c'est sûrement préparé.
Et il y a les autres membres qui ont été sélectionnés avec nous ce soir? Demanda-t-elle. Oui, un là-bas. Celui que Matteo est en train de présenter à Pauline. Entendre parler la présidente par son prénom rassura Zoé. Ça lui donnait de l'authenticité. Nous serons combien?
5,
fit une voix familière dans leur dos. Zoé fut surprise de découvrir Simon. Elle ne l'avait pas vu arriver. Pourtant, il détonnait au milieu des tenues de soirée, avec son pantalon chino et sa chemise décontractée. Zoé remarqua que celle-ci aussi était mal repassée. C'était sa signature, et apparemment, il revendiquait de ne pas être dans les normes de l'Élysée.
« 5 seulement ? » fit-elle.
« À intégrer icônes, oui, mais ajouter 13 chercheurs et une poignée de diplomates pour nous encadrer, et une bonne vingtaine en tout, pour ce qui concerne la France. »
Cela rendait la pertinence de sa présence à elle encore plus douteuse.
réalisa Zoé. Et vous allez communiquer nos noms publiquement ?
La présidente le fera, lorsque ce sera le moment, précisa Diane.
Je suppose qu'on ne peut pas rester anonyme.
Diane lui répondit d'un sourire. Le bleu de ses yeux sembla changer de texture. Elle eut l'air amusée. Elle se contenta pour réponse d'un rire dignement étouffé en fond de gorge. Dans un élan que Zoé estima parfaitement calculé, Romy accapara Diane, et elles s'éloignèrent de quelques pas, la laissant seule face à Simon.
« Vous m'en voulez toujours ?» demanda-t-il.
« Oui. »
Il attrapa une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait et trinqua avec Zoé.
« Puissiez-vous me pardonner un jour ?»
Elle leva un sourcil, sceptique.
« J'espère que vous avez la patience d'une momie. »
Puis, avant qu'un malaise ait le temps de s'installer, on la happa avec Romy pour leur présenter Ethan Gabriel, l'autre invité ce soir-là parmi les personnes sélectionnées pour rejoindre Icon. Un brun flamboyant, à la barbe taillée et huilée, les cheveux longs noués en catogan et rasés sur les côtés, au-dessus des oreilles. Tatouage jusque sur le cou, bague en argent à presque chaque doigt. Veste de velours d'un violet sombre sur un t-shirt tagué des mots « No Future », tombant sur un jean noir. Entre Zoé et Romy pour l'âge.
« Ethan est compositeur », annonça Matteo Villon fièrement. C'est à lui qu'on doit la musique qui jalonne les couloirs du Louvre désormais. Il a fait des musiques de films aussi, et il enseigne au Conservatoire de Paris.
Zoé n'avait jamais entendu parler de lui. Ethan s'inclina pour saluer les deux femmes.
« Je suis l'imposteur de ce groupe », déclara-t-il.
Zoé eut envie de rire. S'ils étaient tous comme lui et elle, la France entière allait se ridiculiser, et le peuple leur lancerait des cajots de fruits pourris le jour de leur départ. Dans la voiture qui les ramenait chez elle, Romy demanda à sa mère.
« Alors, Simon ?
Qu'est-ce que tu t'imagines ?
Non, absolument pas !»
Romy se contenta de sourire dans le reflet de la vitre fumée.
« Tu le connais vraiment, cet Ethan ?»
fit sa mère pour changer de sujet.
« Quand tu lui as dit que tu avais écouté sa musique. »
« Oui, c'est parfois un peu concept, mais j'aime bien. »
Tu vois, c'est pas non plus le musicien le plus célèbre du pays. Ils ne sont pas allés prendre les gens les plus connus ou les plus savants dans leur domaine, mais ceux qui ont une créativité qui répond à leurs critères.
Pas sûr que ça rassure l'opinion publique quand ça deviendra officiel.
Chill, mum. T'as vraiment besoin de te détendre. Faut qu'on parte maintenant. Ça dure depuis trop longtemps. Tu cogites trop.
Zoé ne pouvait s'empêcher de repenser à la franchise de Simon lors de leur discussion au parc Monceau. Qu'à l'Élysée, ils faisaient tous semblant d'être sûrs d'eux, d'afficher une conviction inébranlable dans leur choix, et qu'en réalité, ils doutaient et donnaient le change, en persuadant chacun qu'il était la personne indispensable au succès de cette mission. De l'improvisation totale face à un phénomène inattendu. Romy avait raison. Il était temps de partir, songea Zoé. Ne plus reculer. Assumer. Le lendemain soir, la présidente prononça une allocution pour expliquer que la France envoyait une délégation sur Luxe 1. Les noms seraient dévoilés prochainement. Et elle fit la promesse que ce n'était plus qu'une question de temps avant que le mystère de la sphère soit levé. 10 minutes après la fin de l'allocution, le portable de Zoé sonna. C'était Simon. Le cœur de Zoé se serra lorsqu'il déclara
« Vous avez 24 heures pour faire vos adieux et fermer la maison. Nous partons à la première heure, jeudi matin. »